France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Let's see things on Winterhouse.
France Inter, le 18-20, Christelle Rebière.
Ça fait une semaine que les musulmans pratiquent le ramadan, ce mois de jeûne considéré comme l'un des cinq piliers de l'islam. Comment le vit-on de l'Algérie à Abu Dhabi en passant par Paris? Quels sont ses rites? C'est un moment de communion nationale dans les pays musulmans. On en parle dans Un jour dans le monde. L'Iran dans le monde à l'endroit, avec cette question que pose Frédéric Saïs. Comment Trump s'est-il mis tout seul dans cette impasse? L'ultra-violence en Afrique du Sud, la guerre des gangs dans les quartiers hérités de l'apartheid. C'est le reportage d'Un jour dans le monde.
J'ai déjà au moins 20 ou 21 balles dans mon corps. Mais ces tirs montrent bien qu'ils ne sont plus disposés à participer au processus de paix. Pour faire simple, c'était ou nous.
Et puis nous irons au Brésil, dans la famille Bolsonaro, je demande le fils. Et il est au coude à coude avec Lula pour la prochaine présidentielle, nous dira Guillaume Audat dans Sous les radars. Et dans la tech, la première, passer à l'IA, c'est un ordre. L'injonction émane d'un grand cabinet de conseil américain, nous dira Stéphane Jourdain. Voilà, vous avez les étapes de notre tour du monde. Allons-y.
Le mois béni de Ramadan 1447 de l'Hégire 2026 débutera en France le mercredi 18 février 2026.
Le recteur de la mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz, annonçait il y a quelques jours la date du début du ramadan pour les musulmans de France, 18 février, mais pour le Conseil français du culte musulman, c'était le 19 février. Il n'était pas tout à fait d'accord sur la date, et ce n'est pas la première fois, c'est même un classique. Alors ce soir, on explore le cinquième pilier de l'islam, ce jeûne de 30 jours où l'on ne peut ni manger ni boire, du lever au coucher du soleil, car ce moment singulier dit beaucoup des pays dans lesquels il est pratiqué, de leur querelle théologique, de leur façon de faire société à ce moment-là et de l'intime aussi, c'est-à-dire de la spiritualité. Bonsoir Akram Belkaïd.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au Monde Diplomatique et vous avez notamment travaillé pour le quotidien d'Alger. C'est le pays où vous êtes né et vous venez de publier Chronique du Ramadan, voyage intimiste au cœur du jeûne. C'est chez Talendier. Alors il y a votre vécu, votre regard de journaliste et aussi beaucoup de cuisine et de gourmandise. Alors revenons sur la date du début du ramadan et l'apparition donc en principe du premier croissant de lune, mais c'est souvent une querelle comme ici en France.
C'est une querelle. Il faut rappeler que le ramadan est un mois lunaire, donc il commence avec l'apparition du croissant lunaire. Et vous avez deux méthodes pour savoir quand le mois commence. Vous avez la méthode humaine, il suffit de voir à l'œil nu ou à la loupe l'apparition du croissant. Ou alors il y a le calcul astronomique qui est d'une exactitude avérée. Mmh. Et depuis des décennies, si ce n'est des siècles, il y a débat chez les musulmans sur savoir est-ce qu'il faut que ce soit une vision comme le veut la tradition humaine, ou est-ce qu'on s'en remet aux calculs scientifiques.
Oui.
Et ce qu'on vient de vivre en France, par exemple, qui est d'une certaine manière un certain symptôme de la, je dirais pas de la division, mais de la difficulté des communautés musulmanes au pluriel à parler de la même voix.
Parce que là, il y a les Algériens d'un côté, les Marocains de l'autre.
Toutes les influences possibles et inimaginables. Il n'y a pas que les Algériens et les Marocains. Il y a aussi d'autres pays, notamment ceux du Golfe, qui essayent aussi de peser sur les décisions. Je pense aussi à la Turquie, qui est tout aussi influente. Et puis, donc, on a ces divisions. Alors que si chacun s'entendait pour consacrer peut-être le calcul scientifique, on éviterait ces querelles. Mais dans le même temps, je dirais que c'est ce qui fait aussi, non pas le charme, mais c'est une espèce de marqueur du ramadan, puisque chaque année, si vous allez sur les réseaux sociaux, les gens s'interrogent en se demandant est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain. Et ça vaut aussi pour la fin du ramadan, c'est même plus important parce que c'est quand même la fête de l'Aïd.
C'est la fête à la fin, oui.
Et pour certains, cette incertitude les empêche de poser la journée de congé à la date qu'il faut.
Alors, vous nous emmenez dans votre livre à Tunis, à Alger, à Mascate. C'est un enjeu de politique intérieure à chaque fois, ce moment du ramadan. Il ne faut pas qu'il y ait de pénurie. Et chaque pays en profite aussi pour tester ce qu'on appelle son soft power, son rayonnement.
Absolument. Le ramadan, c'est une période de grande consommation. Tous les pays musulmans ne sont pas autosuffisants en matière alimentaire, donc il y a des importations. Et pour les pouvoirs politiques, pour les régimes en place, il s'agit de veiller à deux choses. C'est qu'il y ait suffisamment de produits sur les marchés et puis qu'il n'y ait pas un emballement trop élevé des prix. Mmh. Parce que les gens en profitent. Et donc, c'est un enjeu de politique intérieure. Il y a aussi un enjeu de solidarité, puisque les plus démunis voient la table des plus... ceux qui sont les mieux, je dirais...
Pourvus
dans la vie. Et donc, il y a un problème d'inégalité qui se pose. Et c'est ce que vous dites aussi. C'est aussi le moment où les diplomaties en amont se sont déployées, comme par exemple le soft power des monarchies du Golfe. Il s'agit d'offrir des denrées alimentaires à des pays qui sont en voie de développement, en difficulté. Ça vaut pour les pays subsahariens, par exemple, qui n'ont pas toujours les moyens d'assurer l'aide sociale à leurs concitoyens. Et ça vaut, par exemple, je cite le cas dans le livre de la date, qui est le fruit avec lequel on rompt le jeûne. Et vous avez un pays comme l'Arabie Saoudite qui offre des quantités assez importantes, c'est des tonnages assez importants de dattes à des pays qui... Alors ça va de la Somalie jusqu'à la Côte d'Ivoire, voire le Ghana ou les pays d'Afrique centrale.
Alors l'iftar, ce repas de rupture du jeûne, ce sont parfois aussi de grandes tables collectives en plein air. C'est pas seulement dans l'intimité de chaque famille. On a du mal à imaginer ça en France, mais c'est le cas par exemple à Londres ou à Barcelone.
C'est le cas à Londres, à Barcelone, c'est le cas depuis quelques jours à New York. En plein Central Park ou alors à Times Square.
Neige, vous voulez dire, en ce moment?
Oui, c'est assez étrange, mais les gens se réunissent et cette mode se développe depuis une dizaine d'années. Elle est même avivée par les réseaux sociaux. Il y a une compétition entre les capitales, entre les villes, pour savoir à qui organisera le plus grand iftar. Ça laisse beaucoup de gens plutôt circonspects, c'est-à-dire qu'on... Alors, il y a la convivialité, et Dieu sait si en France on aime ce mot, donc se retrouver autour d'une table, c'est toujours très bien. C'est plus compliqué quand il s'agit de grandes entreprises qui sponsorisent des iftars, donc c'est une forme...
Il y a un business. Maintenant, de toute façon, on ne peut pas exclure le business, il est partout.
Il est partout.
Même dans les rayons de nos supermarchés, ici en France.
Et c'est ce qui donne d'ailleurs de la visibilité au ramadan en France. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'était un mois de jeûne qui passait plus ou moins inaperçu. Aujourd'hui, du fait que la grande distribution a compris qu'elle avait besoin, qu'elle ne pouvait pas ignorer ce chiffre d'affaires substantiel. Il faut rappeler que les ménages qui sont concernés par le ramadan en France augmentent leurs dépenses de près de 4 à 8%. À ce moment-là. Donc, pendant très longtemps, ça a profité aux petites épiceries communautaires, etc. Aujourd'hui, la grande distribution s'en est mêlée. Et quand vous rentrez dans un grand supermarché ou un hypermarché, il est impossible d'ignorer le grand stand dédié au ramadan avec des victuailles plus ou moins exotiques.
Il faut que chaque soir, l'iftar soit au niveau, si j'ose dire.
C'est un peu la pression que se mettent les gens, effectivement, aux grandes dames des rigoristes, mais aussi des gens qui aimeraient que ce soit un peu plus simple. Mais c'est vrai que c'est un mois de grande consommation et de grandes dépenses. Aux grandes dames aussi des médecins qui mettent en garde les croyants au début du ramadan contre les excès. Mais c'est vrai que c'est un mois de grande consommation. C'est le mois où on mange des choses qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de manger pendant le reste de l'année, ou en tout cas on les mange avec répétition, plusieurs fois dans le mois.
Pourquoi ne dit-on pas joyeux ramadan, comme on dit joyeux Noël, alors que c'est une période de fête?
Oui, parce qu'il s'est installé en France l'idée que c'est une fête, et alors effectivement, il y a un côté festif. D'ailleurs, le mot ramadan a donné le mot ramdam, qui donne agitation, etc. Ça vient de l'agitation, l'activité frénétique nocturne, après la rupture du jeûne. Mais le jeûne, c'est pas que la joie et l'amusement, c'est aussi une ascèse, c'est aussi le repli sur soi, c'est aussi spirituel.
C'est un moment intérieur, c'est un moment intime.
Oui, absolument. C'est ce que ça devrait être. C'est ce que beaucoup répètent. Ça devrait être aussi le moment. C'est l'occasion idéale, vraiment, pour ralentir.
Il y a aussi des tensions dans les pays musulmans entre jeûneurs et non-jeûneurs. Vous écrivez dans votre livre que certains pays font la chasse aux non-jeûneurs.
Il fut un temps où, dans de nombreux pays, notamment ceux du Maghreb, les non-jeûneurs n'avaient aucun problème et vous aviez des restaurants qui étaient ouverts pendant la journée, pendant le ramadan, on a régressé de ce côté-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une pression absolument importante, sociale et politique, sur les non-jeûneurs. Le fait de ne pas jeûner peut être puni pénalement, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Il y a des poursuites, il y a des mouvements de protestation, il y a des gens qui se sont organisés pour réclamer le droit de ne pas jeûner, et on peut le comprendre. Mais ça se heurte, je dirais, au ritualisme et au côté ostentatoire de la pratique, qui aujourd'hui fait que c'est plus compliqué qu'avant de ne pas jeûner. Je cite dans le livre le cas de Bourguiba.
Alors voilà, parlez-nous du verre de jus d'orange de l'ancien président.
Oui, alors il est quasi mythique, ce verre de jus d'orange, parce que Bourguiba considère la Tunisie est indépendante depuis pas très longtemps, et Bourguiba a les yeux rivés sur les indicateurs de développement, et il comprend que le ramadan, qui est quand même un mois où pendant la journée, le rythme ralentit sur le plan de l'économie, et il voulait convaincre ses concitoyens et ses pairs que le fait de ne pas jeûner pour mieux travailler, pour plus travailler, était un enjeu national, et il fait plusieurs discours. Et au cours de l'un d'eux, il boit ce jus d'orange, il repose son verre et il continue son discours. Il pouvait se le permettre, c'était le combattant suprême, comme on dit. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de...
Vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait plus possible ?
Les dirigeants du monde arabe, arabo-musulman, ayant si peu de légitimité vis-à-vis de leur population, je pense que ce serait très difficile pour eux de le faire.
Et puis le ramadan, c'est aussi un moment où l'on se retrouve en famille autour d'un feuilleton, genre telenovela, énorme succès d'audience de l'Égypte à l'Algérie. Chaque pays a sa série, même à l'ère des plateformes. Expliquez-nous, ça permet d'ouvrir des débats dans des pays plutôt muselés, en fait.
C'est un rituel qui remonte à très longtemps, avant même l'apparition d'Internet et des plateformes. C'est le feuilleton ou les feuilletons du Ramadan, parce qu'il y a plusieurs tranches horaires. C'est ce qui réunit tout le monde, c'est ce qui fait parler le lendemain. Mmh. Et ces dernières années, cette dernière décennie, on se rend compte que dans beaucoup de pays, il y a des feuilletons qui créent le buzz, comme on dit,
ouais.
Parce qu'ils abordent des sujets tabous, ils abordent des sujets de religion, des sujets de société. Donc ça entretient la discussion. Là aussi, il y a des enjeux économiques importants, parce qu'avec les feuilletons, il y a la publicité. Mais le mousselsel, comme on l'appelle, le feuilleton, c'est une vraie industrie qui va du Maroc jusqu'au Sultanat d'Oman. Chaque pays a... Et c'est intéressant parce que quand je disais que ça permet de ralentir, ça permet aussi de retrouver, alors je ne vais pas magnifier cette époque-là, mais ça permet de réunifier ou de rappeler la période où même en France, lorsqu'il n'existait que 3 chaînes et pas d'Internet, les gens avaient, je dirais, un vécu audiovisuel commun. On parlait tous du même film le lendemain, de la même série.
Et là, c'est encore le cas.
Avec le feuilleton, c'est possible, parce que c'est ce qui réunit tout le monde, c'est ce qui fait abandonner aux gens leur téléphone intelligent. Ils arrêtent de scroller parce qu'ils regardent le feuilleton qui pose souvent des questions, je dirais ça aborde les questions de l'inceste, du don d'organes, etc.
En fait, pour finir, Akram Belkaïd, ce que vous voulez à travers ces chroniques, c'est ouvrir une porte.
Absolument, c'est le ramadan.
Parce qu'on a du mal à en parler ici en France de manière apaisée.
Oui, on a du mal à en parler. Il y a des polémiques récurrentes. Il y a quelques années, la disparition des œufs sur les étals, c'était la faute au ramadan, etc. Et c'est surtout pour dire qu'il n'y a rien de mystérieux et autour. C'est une pratique très simple, en fait, qui ouvre énormément de perspectives, y compris à ce que je disais tout à l'heure, à la question de la convivialité, du vivre ensemble, du vivre entre soi. Et ça permet aussi de lever le voile sur beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de choses qu'on n'arrive peut-être pas à bien appréhender dans la société française.
Bien, merci Akram Belkaïd, c'est passionnant. Et je rappelle le titre de votre livre, Chronique du Ramadan, publié chez Talendier. Je précise qu'à la fin, il y a votre recette de la chorba.
Oula.
Et je vais essayer. Merci beaucoup. À suivre, Frédéric Saïs, vous remettez le monde à l'endroit.
Et Donald Trump peut-il encore renoncer à attaquer l'Iran ?
Et ce sera juste après ça.
Popular slogan and a bucket of pain. supercomputer on a jolly crusade, massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain, trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer.
Arctic Monkeys, Opening Night, leur dernier single extrait d'un album caritatif pour soutenir l'association War Child qui protège les enfants de la guerre.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le monde à l'endroit, Frédéric Saïs. Face à l'Iran, Donald Trump s'est-il placé tout seul dans une impasse?
Ils sont arrivés hier sur une base aérienne du sud d'Israël, les F-22 furtifs de l'armée américaine, le fleuron des avions d'attaque. Une douzaine d'appareils qui viennent muscler encore un peu plus l'impressionnant déploiement de force au Moyen-Orient. Donald Trump montre les biceps pour faire plier l'Iran. Deux porte-avions déployés, l'un en Méditerranée, l'autre près du Golfe. Au milieu, la République islamique est prise en étau, sans compter les sous-marins d'attaque, les destroyers, les avions de chasse déjà stationnés dans les bases américaines au Qatar, aux Émirats ou en Jordanie. Bref, une armada, comme l'a appelé Donald Trump, démonstration de force inédite dans la région depuis plus de 20 ans, depuis l'invasion américaine de l'Irak.
Mais pour l'instant, cette démonstration de force américaine peine à produire ses effets.
Oui, si l'objectif c'était d'obtenir la reddition des dirigeants du régime iranien, c'est raté. Si le but c'était de forcer Téhéran à renoncer à son arsenal, là encore, c'est raté. Cet après-midi, au cours des tractations à Genève, les émissaires iraniens l'ont répété, ils ne discuteront pas de leur stock de missiles, enjeu de souveraineté, enjeu de sécurité. Bref, c'est non négociable. Alors certes, Donald Trump a fixé un autre objectif. L'Iran doit renoncer publiquement à la bombe nucléaire. Mais le problème pour lui, c'est que Téhéran l'affirme déjà depuis des années. Il n'est pas question de développer l'arme atomique. Alors c'est une promesse sincère ou pas? Mais en tout cas, Donald Trump ne pourra pas brandir cette victoire-là, puisque ce serait, de la part des Iraniens, une sorte de vraie fausse concession.
Tout laisse donc à penser, Frédéric, que Donald Trump s'est piégé lui-même.
Oui, à force de menacer l'Iran de bombardement, à force de gonfler toujours plus son dispositif militaire, Donald Trump peut-il encore faire machine arrière sans perdre la face? Grisé par son audace au Venezuela, le président américain est tenté de montrer que la puissance américaine ne se défie pas à la légère, mais il est freiné par une partie de son entourage en coulisses. Selon le New York Times, le chef d'état-major américain met en garde l'Iran, 90 millions d'habitants, ce n'est pas le Venezuela. Ouvrir le feu, ce serait risquer en représailles des frappes iraniennes contre les bases américaines de la région. Ce serait mettre en danger les alliés, Israël, mais aussi les États arabes qui accueillent des militaires américains. Sans oublier l'économie, le très stratégique détroit d'Ormuz serait bloqué et avec lui, une partie importante des flux pétroliers de la planète. Alors, frapper l'Iran ou pas, Donald Trump est aussi sous le regard de son opinion publique. Pendant la campagne, il lui a promis, souvenez-vous, de ne pas s'embourber dans de nouvelles guerres. La paix grâce à la force, c'est le slogan que martèle le président américain. Alors la force, elle est là. La paix, ça reste à prouver.
Merci Frédéric. Nous sommes en Afrique du Sud pour évoquer la violence des gangs qui semblent avoir de moins en moins de limites. Elles se concentrent dans les Cape Flats, ces agglomérats de quartiers hérités de l'apartheid où les populations principalement métisses ont été installées. Le président Cyril Ramaphosa dit vouloir s'attaquer à cette violence, mais pour l'instant, certains quartiers ressemblent à des zones de guerre où les coups de feu sont quotidiens. La police est dépassée, guerre de territoire, affrontements meurtriers, peur des habitants. La suite, c'est Valentin Hugues qui raconte.
À notre trajet en taxi au milieu des Cape Flats nous met directement dans l'ambiance.
Hey.
Salut.
Okay, I pick up.
Tout va bien, je viens de récupérer un journaliste.
So I'm safe.
Tu es en sécurité, je te rappelle, salut.
Bye. Bye.
Casquette noire sur la tête, Amine n'est pas tout à fait à l'aise ici.
Bien sûr que j'ai peur, je ne veux pas être impliqué là-dedans, il pourrait me tirer dessus.
Nous voilà dans le petit quartier d'Hanover Park, un mélange de modestes maisons colorées et de barres d'immeubles. Ici, plus de 100 personnes ont été abattues depuis le début de l'année.
Je vais t'emmener là où je vivais avant, là où je suis devenu un gangster, à Lomond Court. C'est là que ma vie a basculé.
Jérémy porte une doudoune bleue et le tatouage du gang des Américains. Après avoir frôlé la mort, il décide de quitter la criminalité et de changer de vie.
Une nuit, j'étais ici même, et un gang rival est arrivé des deux côtés, là et là. Ils venaient pour me tuer, ils ont tiré, et c'est la prière de ma mère qui m'a sauvé.
C'est une nouvelle personne maintenant. Tout ça, c'est du passé.
Comme Jérémy, Abby a lui aussi raccroché il y a déjà plusieurs années.
Tu peux lui demander ce qui s'est passé ce matin, l'attaque, etc. Ok.
Aujourd'hui, ce médiateur d'environ 1m90, longue barbe grise et blanche, échange avec les gangs et tente de régler les litiges pour éviter l'escalade.
Mais tu y vas doucement, d'accord?
Avec lui, nous pouvons rencontrer un chef de gang, celui des OTF, qui vient tout juste d'essuyer une pluie de balles sur sa maison.
Vous savez, c'est la norme ici, j'ai l'habitude. J'ai déjà au moins 20 ou 21 balles dans mon corps. Mais ces tirs montrent bien qu'ils ne sont plus disposés à participer au processus de paix. Pour faire simple, c'est eux ou nous.
Parce qu'ici, à Hanover Park, quartier de seulement 3 km², chaque gang a son territoire, toutes les rues deviennent alors de potentielles lignes de front. En témoigne cette pierre qui atterrit directement sur notre pare-brise.
Les gangs fonctionnent autour de trois choses. Les territoires, le trafic de drogue et les fusillades.
Ces gangsters ne ressemblent pas à ceux des films avec des chaînes en or. La plupart du temps, ils tentent surtout de survivre et tuent pour quelques billets. C'est le cas de ce jeune de 25 ans, basket rouge au pied.
J'ai pas de parents, j'ai personne. Avec le gang, j'ai trouvé des frères. C'est les seules personnes qui se soucient de moi. C'est souvent pour ça que tu veux rejoindre un gang. Puis, un jour, tu vois quelqu'un avec qui tu as grandi, quelqu'un que tu aimes, allongé au sol, tes larmes commencent à couler, alors à quoi tu penses? À te venger.
Si Abby et Jérémy font partie d'une équipe de médiateurs, c'est justement pour calmer cette guerre effrénée et parce que trop de balles perdues se logent dans le corps d'innocents. Depuis 15 ans, le pasteur Craven se dresse face à cette violence bien enracinée dans le quartier.
Ces gangs ont été créés par le déplacement urbain. Le gouvernement de l'apartheid voulait détruire nos communautés en les déportant ici, sans développement économique, sans infrastructure, sans loisirs.
Nous sommes à l'étage de son église. Les murs sont tapissés de coupures de presse qui racontent des histoires positives du quartier.
Nous formons les gens à regagner du terrain. Si chaque institution peut élargir son impact autour d'elle, les cercles s'agrandissent, finissent par se rejoindre. La zone contrôlée par les gangs diminue et la communauté reprend alors le contrôle.
Seulement, ces 5 dernières années, les subventions d'État ont été coupées. Le pasteur et son équipe ne peuvent plus agir sur le terrain comme ils le faisaient.
Un gangster qui fait de la médiation pour nous vient de se faire tirer dessus.
Et sans nouveau soutien financier, la situation pourrait finir par leur échapper.
Reportage signé Valentin Hugues et que nous avons déjà diffusé le 2 décembre dernier. Pour aller jusqu'à 19h, les infos que vous avez repêchées sous les radars, Guillaume Moda.
Et elles viennent de New York, où le musée de Brooklyn vient de ressusciter une momie, enfin non, un rouleau funéraire égyptien, vieux de 2000 ans.
Et Stéphane Jourdain, la tech la première.
Parole aux réfractaires de l'IA, ceux qui subissent les coups de pression au travail pour se mettre à l'IA.
Mais d'abord, on part au Brésil, retrouver celui qu'on surnomme le prince des nuits de Rio. Voici Roger Pravida. Bon début de soirée sur France Inter. Thank you. Roger, l'un des principaux ambassadeurs de la nouvelle musique populaire brésilienne, Pravida, sortie il y a 3 ans. 3 nouvelles étapes dans Un jour dans le monde. Voici Sous les radars.
Flávio Bolsonaro and Lula tied in a potential second round of the 2026 presidential
election. C'est un sondage avec lequel tous les Brésiliens se sont réveillés ce matin. Ils donnent Lula au coude à coude avec le fils de Bolsonaro pour la prochaine présidentielle.
Et elle a lieu en octobre prochain, cette élection. Elle oppose le président Lula, qui remet en jeu son mandat, à Flávio Bolsonaro, le fils de Jair, l'ancien président Jair Bolsonaro, chef de l'État de 2018 à 2022. Il s'était lui aussi représenté face à Lula. Encore lui, il avait perdu d'un cheveu, hein, Bolsonaro. La suite, on s'en souvient, il avait refusé sa défaite, lancé ses nervis à l'assaut des institutions brésiliennes. Mais sa tentative de coup d'État aura échoué. Il a été condamné l'année dernière à 27 ans de prison. C'est donc son fils, Flávio, qui reprend le flambeau national populiste de son père. Remontada incroyable dans les sondages de ce sénateur qui ne se cache plus. La condamnation de mon père, dit-il, est le fait d'une justice politique inféodée à Lula. Si je suis élu, je le ferai amnistier. Les Brésiliens ont donc le programme. À 8 mois des élections, rien n'est joué, mais la campagne dans ces conditions promet d'être brûlante.
For too long, Africa's mining was designed, financed and controlled by others.
C'est au nom de l'intérêt national, précisément, que le Zimbabwe interdit dorénavant l'exportation de ces minerais critiques.
Une décision inattendue, une décision coup de massue de la part des autorités du Zimbabwe qui suspendent sine die toutes les exportations de l'ensemble des minéraux bruts, l'objectif étant d'inciter les entreprises étrangères, un peu comme Trump le fait, à implanter leurs usines de transformation sur place, car c'est l'un des sous-sols les plus riches d'Afrique, le Zimbabwe. On y trouve du chrome, du nickel, du cobalt, mais surtout du lithium, très recherché pour les batteries électriques. C'est un enjeu industriel majeur, le lithium, pour la Chine, premier producteur au monde de véhicules électriques et donc très dépendante de ces chaînes d'approvisionnement. Décision inattendue, disais-je, parce qu'elle devait intervenir au plus tôt en 2027, de quoi laisser un peu de temps à Pékin pour s'organiser. Décision coup de massue qui va entraîner beaucoup de volatilité sur les marchés. Le prix de la tonne de lithium a pris 6% entre hier et aujourd'hui, 30% depuis le début de l'année, de quoi faire du Zimbabwe un acteur central de la transition énergétique mondiale.
The Book of the Dead that we just finished conserving is a really interesting and probably unique example because
à New York, les morts sont de retour. Le musée de Brooklyn vient de ressusciter un rouleau funéraire égyptien vieux de 2000 ans.
Et Philippe. figurez-vous que ce papyrus a été découvert à Memphis avant d'atterrir à Brooklyn. Memphis, pas dans le Tennessee, hein, Christelle, mais oui. À Memphis, capitale de la nécropole, la basse Égypte, temps des pharaons, car oui, ce rouleau funéraire est un trésor qui a voyagé dans le temps, un trésor qui a plus de 2000 ans, une merveille archéologique découverte dans les années 1840 par un médecin britannique passionné d'antiquité qui un jour a cédé sa collection à la New York Historical Society. Donc cette pièce unique, somptueuse, d'une longueur de 6 mètres, dorée à l'or fin, est une pièce sur laquelle on trouve quelque 15 000 hiéroglyphes miniatures, un livre des morts dans la tradition pharaonique, censé préparer l'entrée dans le monde de l'au-delà, ce papyrus funéraire sommeillé depuis 150 ans, stocké, presque oublié, dans les sous-sols du musée de Brooklyn, en tout cas bien trop fragile pour être montré. Il a fallu 3 ans pour le restaurer et le déployer entièrement à New York. Sa présentation au grand public est un événement qui chavire tous les fans d'Indiana Jones, dont vous êtes Christelle et dont je suis.
Absolument. Merci Guillaume.
France Inter, le 18/20.
Dans la Tech, la première, Stéphane Jourdain, vous nous parlez ce soir de l'injonction à se mettre à l'IA, de plus en plus forte dans les entreprises et qui peut générer beaucoup de stress, surtout si on n'est pas formé et qu'on n'a pas les outils.
Oui, le cabinet de conseil Accenture vient de prendre une décision radicale, conditionner les promotions de ses employés à l'utilisation de l'IA. Pas d'IA, pas d'augmentation. L'objectif, faire plier les réfractaires. Dit comme ça, c'est un peu brutal, mais ces injonctions peuvent revêtir différentes formes. On se souvient d'un vice-président de Meta écrivant à ses salariés pour qu'ils se mettent à l'IA et deviennent, je cite, 5 fois plus productifs.
Et ces injonctions à l'IA, plus ou moins musclées, elles tendent pas mal d'employés.
Voici par exemple Christelle, 30 ans, juriste dans la fonction publique. Son travail, c'est d'écrire des notes sur des problèmes juridiques. Elle nous parle des coups de pression de ses chefs.
Parfois, c'est très direct. On fait « Ah, mais tu l'as pas passé sur ChatGPT ?» Ça s'affirme un peu comme une évidence, en fait. Il serait temps de s'y mettre. C'est devenu, pour beaucoup, un premier réflexe, une forme d'enthousiasme sur tout ce que ça peut produire. Ce qui nous prenait, je sais pas, quelques jours, quelques heures, maintenant pourrait être sorti en 30 minutes. Ça me questionne pour la suite, quoi. Parce qu'on parle vraiment que de ça. Là, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas y échapper.
Ce qui est particulièrement insidieux, c'est la comparaison permanente entre ceux qui utilisent ChatGPT et ceux qui font sans.
Par exemple, une personne qui va être beaucoup plus enthousiaste, on va dire, à l'usage de l'IA, va pouvoir présenter quelque chose plus rapidement. C'est mis en avant, quoi. Ah, mais tu sais, si tu demandes à un tel, apparemment, ça lui a sorti ça en 10 minutes, c'était plié. On va dire que l'aspect qualité passe un petit peu au second plan. On saute sur tout ce qui nous permet d'aller plus vite.
Et cette pression, Stéphane, elle ne vient pas que des managers.
Et non, dans l'administration, elle vient aussi d'en dessous.
En fait, les personnes qui me demandent conseil, qui sont non-juristes, qui arrivent avec un premier avis généré par IA en me disant « Ah, mais ChatGPT m'a dit ça, est-ce que vous pouvez me le confirmer ?» Ou inversement, parfois quand moi-même je donne un premier avis, en fait « Non, mais je ne comprends pas, pourtant, quand j'ai demandé à ChatGPT ou à Gemini, eh ben, il m'a dit ça. »
Le résultat, c'est une très profonde incompréhension. Se mettre à l'IA, ok, mais pourquoi faire ?
C'est beaucoup d'incitation, mais sans trop saisir le but réel, en fait, de toujours aller plus vite, mais on ne sait pas trop pourquoi, vraiment précisément, on devrait aller plus vite. Ça m'inquiète un peu, ouais, de voir pourquoi, en fait, on se laisse embarquer peut-être un peu trop vite. Je dirais, oui, plutôt angoisse, inquiétude, ce genre de choses.
Autre témoignage, cette fois, dans le domaine de l'industrie.
Oui, Marie est commerciale, on a modifié sa voix. Elle nous raconte comment l'IA a déboulé dans son travail.
Toute la société, on nous a lancé Copilot de Microsoft. On nous a lancé un ChatGPT interne. Et bon, voilà, on nous a informé qu'on devait l'utiliser, mais sans donner aucune autre info. Le message, dès que si on prend pas le virage de l'IA, on va mourir. On est sur une industrie où beaucoup de sociétés ferment. Peu importe l'usage qu'on fait, tant qu'on fait des requêtes, c'est bon, ça passe, on est le bon élève. Moi, je suis pas à l'aise quand en réunion de direction, on présente, telle équipe fait pas de requêtes, l'utilise pas et machin. Ouais, mais en fait, quelles sont les ressources? Quelles sont les guidelines? Quelles tâches on va pouvoir faire beaucoup plus vite, en fait?
Faites des requêtes IA. Pour le reste, on verra après.
On l'entend, ces injonctions à l'IA sont très anxiogènes.
C'est une tendance de fond que nous confirme Yann Ferguson, sociologue à l'INRIA, spécialiste de l'IA et du travail.
on leur dit qu'il faut l'utiliser. En même temps, on leur précise que ces technologies ne sont pas parfaites, c'est-à-dire qu'elles peuvent notamment halluciner. Donc il va falloir qu'ils mobilisent des capacités critiques pour garantir la qualité du résultat. Et en même temps, on leur dit que ce sont des technologies qui doivent les faire gagner en productivité, donc elles doivent aller plus vite. Et donc ça, ce sont des injonctions contradictoires, très anxiogènes.
En fait, avec l'IA, les employés sont condamnés à une sorte de double peine.
C'est-à-dire, vous avez une injonction à utiliser une technologie qui déjà est porteuse d'un certain nombre de stress, mais en plus, on vous pousse à l'utiliser indépendamment de la façon dont ça transforme votre métier.
Dès lors, comment les employés vivent-ils cette pression à l'adaptation ?
La pression à l'adaptation, c'est un vocabulaire qui relève de ce qu'on appelle le darwinisme. Il y a des pressions à s'adapter dans un nouveau milieu qui serait transformé par l'intelligence artificielle. Et ça présuppose en fait que si on ne s'adapte pas, on meurt professionnellement.
On meurt, à moins de se mettre à ces outils. Encore faut-il savoir à quels outils, car il n'y a pas de permis IA.
On ne leur donne pas les gestes. On n'est pas réellement formé pour maîtriser ces systèmes. On n'a pas réellement le permis pour le faire, comme on peut avoir des permis pour conduire une voiture.
Mais oui.
Voilà qui ressemble à un petit cauchemar.
Oui, effectivement. Donc ça veut dire qu'on peut mourir, entre guillemets, professionnellement à cause de l'IA ?
Oui, depuis 3 ans que je couvre l'IA pour France Inter, il y a une phrase que j'entends tout le temps. Les employés qui n'utilisent pas l'IA ne vont pas être remplacés par l'IA, ils vont être remplacés par des gens qui savent travailler avec l'IA.
Cette punchline, elle montre que finalement, le contexte darwinien, il ne se limite pas à « je vais être remplacé par une machine », mais il relèverait aussi de « je vais être remplacé par un humain qui utilise la machine mieux que moi ». Donc, c'est une espèce de guerre qui est décrite pour la survie professionnelle, où il faut à la fois se méfier de la machine et se méfier du collègue qui la maîtrise mieux que moi.
Dans ce contexte, beaucoup d'employés se mettent à l'IA, mais discrètement, sans le dire. C'est ce qu'on appelle la « shadow IA », et on connaît de mieux en mieux ses motivations.
Ceux qui utilisent cette solution cherchent à gagner du temps, trouver un petit peu, d'oxygène dans leur activité, en allant un peu plus vite sur certaines tâches pour avoir plus de flexibilité dans l'organisation de leur journée. C'est aussi automatiser les tâches répétitives, des tâches mécaniques qui sont moins porteuses de sens. Et l'autre partie, c'est plutôt une recherche de performance, de créativité, d'innovation, d'inspiration.
Reste une question, où vont aller les gains de productivité ? Et notre sociologue a la réponse.
Si j'ai obtenu efficience et performance, c'est-à-dire si j'ai gagné un petit peu de temps, je vais pouvoir sortir plus tôt ou mieux organiser ma journée.
Bref, les employés qui se mettent à l'IA veulent gagner du temps pour passer moins de temps au travail.
Et ça ressemble quand même un peu à un gros cauchemar, voilà. Votre chronique. Merci quand même Stéphane. Nous voilà à la mi-temps du 18-20 à suivre le journal de 19h présenté par Sarah Mansoura, puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20. On se tutoie ce soir, Philippe.
Bah oui, on fait comme tu veux Christelle. Bah Raymond, oui. 80 ans, peut-être du fait de mon âge, mais je refuse le tutoiement automatique. Laurent, au travail, parmi mes proches collaborateurs que je tutoie, certains me rendent l'appareil, d'autres me disent « vous ». Certains prononcent mon prénom avec « vous », d'autres disent « monsieur » et « vous ». Mais le top, c'est le « monsieur » et le « tu ». Alors ça doit vouloir dire « c'est quelqu'un d'important, mais on se connaît bien ».
Allez, 01 45 24 7000.